France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, ils rôdaient aussi dans les airs. Les dieux le pouvaient. Ils volaient librement et passaient autant de fois qu'ils le voulaient, du haut du ciel où ils vivaient, à la terre, où ils venaient tourmenter ou aider les humains, puis retour dans le ciel. Certains dieux avaient des ailes, comme Eros, le dieu de l'amour, Iris, la messagère de Zeus, ou Hermès, l'autre messager, avec ses sandales à plumes. Les dieux étaient libres, sur terre, sur mer, dans les airs. Ils allaient partout légèrement. Comme ça, ils pouvaient échapper aux menaces, aux malheurs. Il suffisait de s'envoler. De temps en temps, les dieux se manifestaient sous l'apparence d'oiseaux, des rapaces ou des colombes, comme ils le voulaient.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Et nous, les humains, les terrestres, les rampants, si nous nous transformions en oiseaux, si on se mettait des plumes, des ailes et tout le reste, pour fuir les lourds malheurs de notre monde terrien, pour fuir nos ennemis, nos misères et voler, libres comme l'air. On a bien essayé, mais on n'y arrive pas vraiment. Il y a eu une tentative célèbre, mais qui n'a pas été un franc succès. Dédale, l'ingénieur malin, a bien trouvé un moyen de s'échapper de la prison inextricable du labyrinthe, prison qu'il avait construite lui-même, grâce à des ailes. Le roi Minos y avait enfermé parce que Dédale, qui venait d'Athènes, avait aidé l'Athénien Thésée à se débrouiller dans ce labyrinthe infini. Dédale avait suggéré à la belle Ariane, amoureuse de Thésée, de lui donner un fil. Thésée, en suivant son fil, a pu sortir du labyrinthe après avoir tué le Minotaure qui y séjournait. Puis, il a enlevé Ariane, la fille du roi Minos. Minos n'a pas vraiment apprécié et a coincé Dédale dans son propre labyrinthe avec son fils Icare. Le labyrinthe était si compliqué que Dédale lui-même, son inventeur, ne pouvait pas en trouver la sortie. Heureusement, ce labyrinthe était à ciel ouvert et Dédale, l'ingénieur, a construit des ailes qu'il a assemblées avec de la cire. Il en a fabriqué deux paires, une pour lui, une pour son fils Icare. Mais on connaît la suite. Le père et le fils ont pu décoller. Mais Icare, l'enfant curieux, n'a pas pu s'empêcher de se rapprocher du soleil. La cire qui tenait ses ailes a fondu et il est tombé dans la mer. Dédale n'a pas fini de pleurer son fils. La prouesse technique n'a pas été renouvelée avant longtemps. Pour être libre comme les oiseaux, il ne faudrait pas se bricoler des ailes mécaniques ou construire des machines puissantes comme les avions. On y est enfermé, dépendant, pas libre. Il faudrait tout simplement se donner des plumes et de vraies ailes, comme les oiseaux, et avoir leur souplesse, leur vitesse, leur beauté. Ça paraît tout simplement impossible, un rêve d'enfant. Au mieux, des mortels peuvent imiter le cri des aigles ou des éperviers, s'ils veulent faire peur, ou imiter le chant triste d'un oiseau triste quand ils ont subi un malheur. Mais voler. Partir loin, être libre sur toute la surface de la Terre, ils ne le peuvent pas. Les humains seront toujours pesants, terreux. Il y a un lieu, un seul, où ils le peuvent, où c'est facile. C'est au théâtre, pour la comédie. Il suffit de mettre des plumes à un acteur, pour que devant tout le monde, cet acteur ou ce cœur se mette à voler. Tout le monde ou presque y croit. Et même si on n'y croit pas, c'est pareil, l'acteur vole. On n'a pas besoin de machines qui baladent des acteurs dans les airs au-dessus de la scène. C'est inutile. Il suffit qu'un acteur dise « Je suis un oiseau, je vole » pour qu'il soit un oiseau et qu'il vole. Le théâtre peut être très économe et quand même efficace. C'est utile, en ces temps sévères, de restrictions budgétaires pour le spectacle vivant. Dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère, la comédie n'était pas économe. Il fallait du spectacle, du grandiose, de la drôlerie bien visible et bien sonore, avec du bruit, du faste, dans un délire chamarré de sons, de danse, de mots. Si on jouait une comédie appelée « Les oiseaux », on en connaît trois. Il fallait des acteurs emplumés, avec des plumes de toutes les couleurs. En plus, il portait un masque impressionnant et un gros phallus en cuir, bien en valeur. Ça ne fait pas très volatile, mais c'était la règle. Il fallait de la musique, de la très belle, à la fois très compliquée, savante et puissante, qui imite vraiment le chant d'une foule d'oiseaux. Cette musique devait être entraînante. Elle mettait les spectateurs et les acteurs en transe. Il fallait beaucoup de monde sur scène. Trois acteurs qui jouent à trois tous les rôles de la pièce. C'était des professionnels. Et un chœur, c'est-à-dire une masse qui pouvait aller jusqu'à 24 citoyens, des amateurs, mais très entraînés. Un producteur riche devait payer tout cela. Ça coûtait cher. Et ça faisait rire. On pouvait rire de tout. Des concitoyens qu'on injuriait avec talent et violence, surtout s'ils étaient présents dans le public. Des esclaves, des chefs, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des dieux, de sa propre ville, Athènes, des étrangers, grecs ou barbares. Personne n'était épargné, tout le monde y passait. On était mis à égalité par le rire. C'était démocratique.
Jean-Noël Allard, historien.
La comédie, elle prend pour point de départ la vie politique de la cité. Donc les personnages qui sont évoqués sont souvent des personnages connus qui vivent au moment où l'on assiste à la pièce. Le peuple lui-même est pris pour cible dans la comédie, et cette manière de prendre le peuple pour cible va permettre de lui indiquer aussi les manières de mieux endosser son rôle des citoyens. Par exemple, très souvent, Aristophane présente les citoyens comme avalant, benêt, toutes les paroles que les orateurs prononcent. Et par, encore une fois, la mise en abîme de cette situation dans le théâtre à l'endroit des citoyens, ils vont réfléchir à leur manière d'envisager les discours des orateurs et à les affronter ou à les digérer de manière un peu plus raisonnable.
J'ai trouvé que ça valait la peine d'interrompre pour un temps la saga d'Ulysse que nous suivons depuis le début de cette saison et de faire un détour par la comédie, par celle qui est sans doute la plus belle, la plus profonde et déroutante des comédies que nous avons conservées de la Grèce ancienne. Il s'agit de la comédie « Les oiseaux », écrite, montée, jouée par cet immense comique qu'est le poète Aristophane. C'est peut-être le moment, vu l'actualité. L'actualité est plutôt stressante, pas vraiment comique. Nous avons vu dernièrement deux personnages pas drôles du tout, qui se prennent très au sérieux, même s'ils sont ridicules, prendre le pouvoir haut la main dans le pays le plus puissant du monde. Le président Trump et son inénarrable compagnon Musk, un entrepreneur fou, très génial, mais complètement fou. On ne peut pas dire qu'ils fassent rire, même si on les trouve grotesques. Tellement ils ont de pouvoir et savent montrer les dents qu'ils ont bien insérées, comme la monstresse Scylla ou le cyclope. Ce sont eux qui gloussent, qui essayent de faire rire, de faire passer celles et ceux qui ne pensent pas comme eux pour de pauvres créatures vaines, ridicules, grotesques, arriérées, pas libres, coincées, nuisibles ou au minimum inutiles. Des créatures du passé, empêtrées dans de vieilles idées morales, politiques, des idées qui seraient, selon eux, des ennemis de la liberté, de la vraie, la liberté sans aucune contrainte. Cette liberté sans limite est leur valeur absolue, jusqu'à écrabouiller tous ceux et toutes celles qui ne seraient pas dignes de cette liberté.
Trump, le président, était pourtant à son bureau. C'est lui qui a convoqué la presse à assister à une sorte de conférence de presse improvisée. Et les journalistes sont tombés nez à nez, non seulement avec Elon Musk, mais aussi, vous le voyez là, son fils de 4 ans qui s'appelle X, la lettre X, X en anglais, comme son entreprise.
X, are you okay? This is X. And he's a great guy, high IQ.
Are we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, FAX, we'd have I'll be scrutinized nonstop. This is to make sure we're actually collecting. Sorry for this.
On peut se demander comment le poète Aristophane, qui s'y connaît en comique, aurait représenté ces drôles de personnages qui ne sont pas si drôles que ça. Il ne se serait sans doute pas contenté de se moquer d'eux, de les rendre ridicules. Ce serait trop facile et complètement inutile. L'humour n'est pas drôle s'il ne tape que d'un seul côté. Il devient prévisible, répétitif, très sérieux, hargneux. Le vrai rire, celui qui libère, qui nous secoue le corps des pieds à la tête et peut à l'occasion nous faire pisser de joie, vient de l'imprévu, de l'inattendu, de la découverte qu'on a accès à des mondes totalement nouveaux. Et ce rire libérateur, c'est aussi rire de lui-même. Aristophane, qui savait rire, aurait emporté ces individus dans les tourbillons sans fin que sont ces comédies. Il en aurait fait de drôles d'oiseaux. Les deux compères américains veulent la rupture. Ils veulent fonder un autre monde. Aristophane met en scène au début de sa comédie « Les oiseaux », deux Athéniens, pas très jeunes, qui en ont assez de leur ville. Ils veulent rompre et s'exiler. Au départ, ils ne veulent pas tout bouleverser, mais simplement s'en aller, aller vivre ailleurs. Mais ils vont vite changer d'avis et créer un nouvel ordre politique, économique, religieux. Ils vont dominer le monde, comme le veulent Trump et Musk. Rien ne sera plus pareil. Pour dominer le monde, il faudra devenir oiseau, c'est-à-dire libre. Libre de commettre tous les abus et de dénoncer ceux des autres. Et libre de temps en temps de faire griller à la broche quelques-uns de leurs collègues à plumes. Tout y passe.
Encore un peu de patience. Je vais être bientôt le maître du monde.
Ces deux Athéniens portent des noms qui parlent. Le premier, qui est en fait assez borné, s'appelle en grec Euelpides. Ça veut dire qui a un bon E, espoir, Elpides, un nom prometteur. On pourrait l'appeler tout simplement Bel Espoir. J'avais pensé à Bébé Espoir, mais Jean-Paul Belmondo ne mérite pas ça. Mieux vaut l'appeler Ça ira mieux demain. Le second, qui est en fait le chef, s'appelle Pistetairos. Ça veut dire qui sait persuader, Piste, ses copains, sa bande d'amis et Tairos. Un chef de bande qui tient sa troupe parce qu'il sait parler, un hableur, un chef qui a du bagou. On pourrait l'appeler Bobagou, ou plutôt Dédé la tchatche. Savoir bien parler, comme Ulysse par exemple, c'était une qualité essentielle pour les citoyens de la démocratie athénienne. Enfin, pour ceux qui voulaient prendre de l'autorité, qui voulaient exercer un pouvoir. Les citoyens d'Athènes ne cessaient pas de se réunir en foule pour délibérer, pour trancher, dans les assemblées politiques, dans les tribunaux populaires. Il fallait être très bon en discours pour entraîner l'adhésion, susciter des votes, faire passer des lois. Tout ou presque était public, à ciel ouvert si on était citoyen. Tout était affaire de débat. C'est pour cela que les représentations théâtrales étaient aussi populaires, aussi importantes dans la vie d'Athènes. Sur scène, on voyait des personnages débattre, s'opposer verbalement, parfois avec une extrême violence, devant la collectivité qu'était le cœur. Dans la comédie, le débat pouvait devenir coup de pied, passage à tabac.
Jean-Claude Carrière, helléniste.
On parle toujours, si vous voulez, de théâtre grec. Or, en réalité, la comédie et la tragédie sont uniquement athéniennes. Et j'ai l'impression que ça vient du caractère exceptionnel de la situation d'Athènes. Et qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel ? A priori, c'est simplement que c'est une démocratie. Et alors, la chose extraordinaire, me semble-t-il, d'Athènes, c'est qu'elle invente une égalité arithmétique. Tout le monde vaut tout le monde, chacun est l'égal de tous les autres. Et c'est à ce moment-là que naît le théâtre.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Ces campeurs sous mes persiennes, mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas, y a des endroits la nuit sont plus bronzés que nos petits poulbeaux.
mais comprenez-moi, la tchè là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y'a des taxis qui ont peur du noir. De la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traînes misères? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est parce qu'il faut sous mais comprenez-moi, à Rochechouart, y'a des taxis qui ont peur du noir. Comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé. Mais je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami?
Pierre Judet de la Combe évoque la rencontre entre deux Athéniens libertariens et le monde libre des oiseaux.
Dédé Lachatch, personnage principal de la comédie Les Oiseaux, et son complice, Ça ira mieux demain, veulent s'exiler. Ils en ont assez de la vie à Athènes, trop d'amendes à payer, trop d'impôts, trop de dettes, de procès, trop de règles, aucune tranquillité. Ils partent. Alors que tant d'étrangers, de métèques, voudraient devenir citoyens de la grande Athènes. Ça ira mieux demain, le dit directement au spectateur.
Eh oui, messieurs, vous qui assistez à ce dialogue, nous souffrons d'une maladie tout opposée à celle de ce Sakas. Lui qui n'est pas citoyen athénien, il veut se faire admettre à tout prix, alors que nous, Athéniens de tribus et de souches honorables, citoyens vivants parmi les citoyens, bien que personne ne nous chasse, nous nous sommes envolés de notre patrie avec nos deux pieds. Pourtant, nous n'avons aucune aversion pour notre grande cité. Et nous ne doutons pas de sa grandeur foncière, de la prospérité, de la liberté qu'elle offre à tous, de payer des fortunes en amende. Tenez, les cigales par exemple. Ce n'est que pendant un mois ou deux qu'elles chantent, juchées sur leurs ramilles. Mais les Athéniens, eux, ils ne cessent de chanter, juchées sur leurs tribunaux, leur vie durant. Voilà pourquoi nous allons à cette allure, avec corbeilles, marmites et rameaux de myrte. Nous errons tous deux à la recherche d'un endroit sans histoire, où nous puissions nous fixer et couler des jours paisibles.
Le but, c'est qu'on les laisse vivre en paix, dans le calme, contrairement à nos Américains. Mais attendez, ça va changer. La vie à Athènes était trépidante, effervescente. Le mot d'ordre général dans la cité était l'hyperactivité. Il fallait toujours inventer, entreprendre, oser quelque chose de nouveau, ne jamais se reposer sur l'ordre établi, sur ce qui était acquis. Athènes se voulait hyperactive. En ce printemps de l'année 415 avant notre ère, Athènes débordait d'énergie. La ville était lancée dans une grande entreprise militaire, la guerre, avec la grande cité rivale, Sparte, avait repris. Après plusieurs années d'une trêve qu'Aristophane avait soutenue, Athènes avait décidé de lancer une immense expédition maritime contre la Sicile, contre Syracuse, alliée de Sparte, et qui tentait de créer un vaste bloc anti-athénien. Cette décision avait été précédée de très âpres débats politiques. Le parti de la guerre avait finalement gagné haut la main. La flotte énorme allait partir quand une troublante affaire troubla la ville. Des jeunes gens, plutôt des aristos bien imbibés, avaient mutilé des statues du dieu Hermès, comme le raconte Thucydide, l'historien de la Grande Guerre entre Athènes et Sparte.
Tandis que les armements se poursuivaient, il arriva que les Hermès de marbre, qui se trouvaient dans la ville d'Athènes, on connaît ces blocs taillés et quadrangulaires, que l'usage du pays a répandu aussi bien devant les demeures particulières que devant les sanctuaires, furent pour la plupart une nuit mutilé au visage.
Est-ce que ce sont vraiment les visages de ces Hermès qui ont été mutilés? Les historiens discutent. Dans une de ses comédies, Aristophane vise clairement une autre partie corporelle, partie frontale également, mais plus basse, et pas moins menacée. C'est dans sa pièce Lysistrata. Les femmes grecques, pas seulement athéniennes, mais de toute la Grèce, en ont assez de la guerre entre Athènes et Sparte. Elles décident de faire une grève du sexe. Un très officiel magistrat athénien vient se plaindre auprès de ces femmes. Au nom de tous ses collègues, il ouvre son manteau et montre dans quel état douloureux cette frustration injuste met la population masculine. La porte-parole des femmes lui répond tout de suite.
« Si vous êtes raisonnable, serrez vos manteaux, de peur qu'un de ces fracasseurs d'Hermès ne vous voie. »
Une enquête est ouverte sur ces mutilations qui furent accompagnées de parodies de cérémonies religieuses. Alcibiade, l'un des généraux les plus belliqueux d'Athènes, est menacé, soupçonné. Il ne va pas tarder à s'enfuir et à passer à l'ennemi, à Sparte. Mais à part ça, Athènes semble encore en pleine force. La flotte est partie et les Athéniens remportent des succès. L'expédition en Sicile sera en fait un grand désastre pour Athènes. Mais au moment où la pièce « Les oiseaux » est jouée, on ne le sait pas encore. Ce que fuient les deux compères, ce n'est pas seulement cette guerre dont ils parlent à peine dans la pièce. C'est la frénésie athénienne habituelle, la frénésie judiciaire, militaire, politique. Ils veulent être peinards. Ils en ont assez du trop de lois, de règles, du trop d'État. Ils veulent qu'on leur foute la paix, du bon gros populisme. Pour le moment, cela ne ressemble pas encore au programme des deux compères américains, ivres de pouvoir. Mais ça va vite changer. Pour ça ira mieux demain, et surtout pour son chef, d'aider la tchatche. Il s'agit donc de trouver un endroit tranquille pour finir sa vie. Pour cela, rien de mieux que d'interroger un oiseau. Les volatiles voient le monde d'en haut. Ils en connaissent toutes les régions. Un oiseau, si on arrive à lui parler, pourra dire où se trouve la ville idéale, tranquille, prospère, où il fait bon vivre. Les deux Athéniens se sont mis en tête de trouver un oiseau qui autrefois a été un homme et qui en plus a été lié à la ville d'Athènes. Ils pourront se comprendre. Cet oiseau, anciennement homme, existe. Il s'appelle Téréus. C'était un roi du nord, de la région de Thrace. Il avait épousé une Athénienne, la princesse Procné, fille du roi d'Athènes. Mais l'histoire de cet homme, de cette femme, elle aussi devenue oiseau, est affreuse et triste. On est loin du bonheur rêvé par les deux Athéniens. Une ombre se glisse déjà dans le tableau. Ce Térée, quand il était encore humain, a épousé Procné l'Athénienne et l'a emmené chez lui. La sœur de Procné, Philomèle, est restée à Athènes et Procné se languit d'elle. Elle demande à son mari, Térée, d'aller à Athènes chercher Philomèle et de la ramener. Pendant le voyage, Térée, le mari de Procné, viole Philomèle. Pour qu'elle ne révèle rien, il lui coupe la langue. Philomèle retrouve sa sœur Procné, mais ne peut rien lui dire. Elle se met alors à tisser une tapisserie qui représente ce que Térée lui a fait. Procné est choquée, désespérée. Par colère, par tristesse, elle tue le jeune enfant, le petit Itys, qu'elle a eu de Térée et son mari, et elle le donne à manger au père. Térée s'en rend compte, s'emporte et veut massacrer les deux sœurs avec son épée. Mais heureusement, et enfin, les dieux interviennent. Ils empêchent le massacre et transforment la famille en oiseau. Térée en huppe, Philomèle en hirondelle et Procné devient un rossignol qui ne cesse de pleurer son fils.
Itys ! Itys ! Itys !
Cette horrible histoire était bien connue des Athéniens. Sophocle venait de monter une tragédie qui s'appelait Térée. Ce n'est pas une manière heureuse de devenir oiseau. Ça ira mieux demain et d'aider la tchatche auront plus de chance. Pour retrouver Térée, ils ont acheté deux oiseaux et les tiennent avec une corde. Ils espèrent que ces bêtes les conduiront chez leurs confrères. Ils sortent d'Athènes, marchent et arrivent près d'un buisson. Ils font du bruit pour faire sortir un oiseau. Un oiseau sort, fonce sur eux. Il a un énorme bec. Il menace de tuer les deux Athéniens. Les humains, c'est bien connu, sont les ennemis des oiseaux. Il faut donc les combattre. Les deux compères prirent peur et tous deux se conchièrent. Les acteurs n'ont qu'à se débrouiller pour arriver à représenter sur scène un tel émoi. Certains y arrivent. Effrayés, les deux Athéniens disent qu'ils ne sont pas des humains, mais des volatiles. Ils se donnent des noms d'oiseaux et inventent des espèces. L'un dit qu'il est le peureux de Libye, l'autre l'enfoiré de Colchide. Mais l'oiseau, le vrai, les reconnaît. En fait, il était avant, le serviteur de Térée, celui qui est devenu une huppe. Il l'a suivi dans sa transformation. Il est d'accord pour réveiller son maître, Térée la huppe, qui s'est endormi après un bon repas de graines. Les Athéniens expliquent leur projet à Térée, qui connaît le vaste monde. Térée leur propose plusieurs villes, par-ci, par-là, mais aucune ne semble attirante. Dédé la Tchatche commence à réfléchir. Il interroge Térée la huppe sur le mode de vie des oiseaux. Il apprend qu'ils ne connaissent pas l'argent, qu'ils n'ont donc pas de dettes à payer, qu'ils ignorent la corruption et qu'ils vivent heureux en picorant.
Nous trouvons notre pâture dans les jardins, sésame blanc, myrte, pavot, herbe au chantre.
Un vrai bonheur, une vie tranquille. Dédé la Tchatche réfléchit encore et une idée faramineuse surgit dans son esprit. Et si les oiseaux prenaient le pouvoir sur le monde, sur les dieux, sur les humains? Et si lui, Dédé la Tchatche, se faisait oiseau et devenait leur chef? Les oiseaux sont gentils, contents, mais un peu bêtes. Ils n'ont pas conscience de tout ce qu'ils pourraient faire, de tout ce qu'ils pourraient imposer aux dieux et aux humains. Un peu de beau discours de Bagou pourrait les persuader et faire de lui, le vieil Athénien, leur roi.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, mais toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté.
Pierre Judet de la Combe raconte comment un des Athéniens veut prendre la place de Zeus.
Il faut persuader les oiseaux de ne plus voler partout, n'importe où, n'importe comment, mais d'être sérieux. et de fonder une cité dans le ciel. Dédé Latchatch doit déployer tout son art de discours.
Ouh là là, je vois un immense projet pour la race des oiseaux. Toute la puissance qu'ils auraient s'ils m'écoutaient.
T'écouter ? Dire quoi ?
M'écouter, c'est d'abord ne plus voler dans tous les sens le bec grand ouvert. C'est indigne de faire ça. Tu vois, chez nous, quand les gens volettent de ci, de là, on se demande « c'est quoi cet oiseau ?» Et on dira « un homme oiseau sans règles, un emplumé, qui fait n'importe quoi, qui ne reste jamais en place. »
Par Dionysos, tu as totalement raison de t'en prendre à cela. Qu'est-ce qu'on doit faire ?
Fonder une cité.
Mais quelle cité on peut fonder, nous, les oiseaux ?
En vérité, il n'y a pas plus tordu que cette parole sortie de ta bouche.
Dédé Latchatch donne à la huppe une leçon de cosmologie. Les oiseaux vivent entre le ciel, où il y a les dieux, et la terre, le domaine des hommes. Entre les deux, il n'y a rien de solide. Il n'y a que l'air, les nuages qui passent et la lumière céleste. Mais précisément ce vide intermédiaire, ou quasi vide de l'entre-deux, est le lieu central du cosmos, le lieu stratégique. Si on l'occupe, si on le ferme par des murs, par les remparts d'une cité, il n'y aura plus de passage entre le bas et le haut, entre les hommes et les dieux, et vice-versa. Il suffit de rendre solide, bien clos, ce lieu aérien pour que les oiseaux, maîtres de l'air, aient le pouvoir sur le monde entier. Dédé veut en faire la démonstration.
Regarde en bas.
Je regarde.
Et maintenant, regarde en haut.
Je regarde.
Tourne-toi le cou de tous les côtés.
Par Zeus, qu'est-ce que je gagne si je m'entortille ?
Tu as vu quelque chose ?
Les nuages et le ciel.
N'est-ce pas là la sphère des oiseaux ?
La sphère ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est comme si on disait le lieu. Mais comme ça tourne et que tout y circule, on dit maintenant la sphère. Si vous y fondez une colonie et si vous la fortifiez, cette sphère prendra le nom de cité. Et vous commanderez aux hommes comme si c'était des sauterelles. Et les dieux, vous les ferez mourir de faim.
Terré la huppe n'en croit pas ses oreilles. Il veut qu'on lui explique comment les dieux pourraient mourir de faim, eux, les immortels. Dédé Latchatch continue sa leçon. Terré la huppe est enthousiaste.
Et comment ?
Au milieu, entre les dieux et la terre, il y a l'air, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est comme pour nous. Si on veut aller à Delphes, il faut demander le passage aux Béotiens. Pareil, quand les hommes feront un sacrifice aux dieux, si les dieux ne vous paient pas une taxe pour le passage par cette cité qui n'est pas la leur, et par le grand vide, vous bloquerez la fumée grasse des cuissons.
Hurrah ! Par la terre, par les pièges, par pantières et filets, je n'ai jamais entendu de pensée aussi ingénieuse. Je vais donc fonder cette cité avec toi, si les autres oiseaux sont d'accord.
Et voilà, c'est parti. Les oiseaux conduits par Dédé vont se lancer dans une entreprise démente. Fortifier l'air, en faire une ville, la leur, et empêcher toute communication entre les hommes et les dieux, sauf si les dieux payent un droit de passage. D'habitude, ce sont les oiseaux qui communiquent aux hommes les volontés des dieux. Les dieux se servent des oiseaux, de leur vol, de leur direction, pour envoyer des signes aux hommes. Les oiseaux sont un langage divin. Et les humains doivent s'adresser à des spécialistes, les devins, pour comprendre ce que les dieux veulent leur dire. Hommes et dieux ne communiquent qu'à distance, par l'intermédiaire de l'air, avec les signes que sont les oiseaux, et en sens inverse, par la fumée de graisse qui monte des sacrifices. Tout va changer. Là, ce sont les oiseaux qui vont décider de ce qui peut passer entre les dieux et les hommes, moyennant un droit de douane. Les oiseaux vont avoir le monopole de la communication universelle. Dans l'espace, où il n'y a que l'air et les nuages, les oiseaux seront maîtres de ce qu'on appelle aujourd'hui le nuage, le cloud. Ils seront maîtres de tout ce qui peut se dire, se transmettre par les airs. On assimilait souvent les oiseaux au langage. On en faisait les messagers les plus rapides, les plus universels. Et on parlait avec Homer de paroles ailées. Désormais, ce sera la cité des oiseaux bien solide qui aura la maîtrise absolue de la communication. Et c'est en fait Dédé Latchatch qui va exercer ce monopole autoritaire. On commence à connaître cela aujourd'hui. Ça paraît très moderne, cette idée que ce qui compte, c'est ce qui est mobile. Ce n'est pas ce qui est bien défini dans une identité stable, arrêtée et connue. selon des hiérarchies qui semblent inamovibles, avec les dieux bien installés dans le ciel au-dessus des hommes. Ce qui compte, ce qui est vraiment actif, c'est ce qui relie des mondes différents, comme celui des dieux et celui des hommes. C'est ce qui est entre. Le langage est le moyen privilégié de relier ces mondes, parce qu'il est aérien, pas fixe, universel. Comme les oiseaux, il traverse l'espace. À l'époque d'Aristophane, pas mal de philosophes pensaient comme cela. Ainsi, Gorgias, le sophiste, voyait dans le discours un despote puissant qui transforme le monde, alors qu'il utilise des moyens extrêmement légers.
La parole est un maître puissant qui, au moyen d'un corps très petit et parfaitement invisible, accomplit les œuvres les plus divines, car elle peut faire cesser la peur, supprimer le chagrin, provoquer la joie et accroître la pitié.
Le tout petit corps invisible, au moyen duquel le langage obtient des effets énormes, est la petite vibration de l'air que provoque la bouche en parlant. Les oiseaux, avec leurs ailes, provoquent la même vibration, vibration minuscule, mais qui peut terrifier. Dans une tragédie, Prométhée convient d'enchaîner et de clouer sur une montagne, entend un bruit d'ailes. Il ne voit rien, ne fait qu'entendre. Il est effrayé, alors que ce sont des créatures bienveillantes qui volent vers lui. Il évoque la peur que fait naître en lui ce battement de l'air.
Hé, à nouveau j'entends tout près, parcimonieuse, une rumeur d'oiseau. Des ailes frappent à petits coups l'azur. Il tremble comme une flûte. Tout ce qui vient me terrifie.
Le langage, disait-on chez les intellectuels, est un maître puissant. Dédé la tchatche qui est cultivée en est parfaitement conscient. Mais la comédie est ironique. Elle ne se prend pas au sérieux. Chez elle, aucune vérité n'est posée une fois pour toutes. Tout change, se renverse. C'est le cas ici. En effet, pour que le monde léger, très mobile des oiseaux prenne le pouvoir sur l'ensemble du cosmos, sur la société des dieux et celle des hommes, il faudra le transformer radicalement, le rendre solide, bien fermé par des verrous et des murs, de manière à contrôler tous les passages entre le ciel et la terre. En fait, ce monde des oiseaux ne sera plus du tout aérien et volatile. L'air instable, mouvant, souverain, libre, va devenir rigide, une citadelle ultra solide. Un beau paradoxe. Les oiseaux vont y perdre leur liberté.
Pierre Desproges.
De nombreux imbéciles me demandent ce qu'est un ornithologue. C'est pourtant simple. Comme son nom l'indique, l'ornithologue est une personne qui étudie les ornithos. On dit un ornithal, des ornithos. L'ornithologue reconnaît un ornithal rien qu'à son chant.
Fauvette. Colibri fouille merde. Seriez-vous assez aimable pour répéter? Hirondelle outrée. Rossignol. J'ai horreur du chant du rossignol.
Étonnant, non?
I'm not ashamed to jump in to find a dark.
Judée de la Combe raconte comment les oiseaux enferment le ciel dans un rempart.
Pour le moment, l'urgence est de persuader les autres oiseaux. Il faudra les convaincre que eux, ces êtres légers, à l'esprit qu'on dit souvent vide, qui vivent en mangeant des graines, sont en fait très puissants, plus puissants que les dieux de l'Olympe, et que leur milieu aérien est le centre du monde. Thérèse la Huppe se met à chanter pour faire venir ses congénères. Écoutons.
Boop, 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 io, 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 oi, toi, ito, ici, venez, chacun de mes frères ailés, vous tous qui des paysans picorez les labours aux bonnes semences, innombrables tribus de becteurs, d'orges, peuple de ramasseurs de grains au vol rapide qui lancez un cri délicat, et vous tous qui dans le sillon en foule autour de la motte gazouillée ainsi légèrement d'une voix joyeuse, tio, 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 et tous ceux qui parmi vous, le long des jardins, sur les rameaux de lierre, trouvent leur pâture, et ceux des montagnes, et les croqueurs d'olives sauvages, et les picoreurs d'arbous, hâtez votre vol vers ma voix. Trioto, trioto, toto, brix. Venez ici apprendre les dernières nouvelles, car tout ici, nous les réunissons, les tribus des oiseaux au cou tendu. Chez nous, est arrivé un vieillard pénétrant, neuf d'esprit et manipulateur d'entreprise. Allons, venez tous au palabre, ici, 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 toro, 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 tix, kikabau, kikabau, toro, 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 lilix.
Des oiseaux arrivent, d'abord au compte-gouttes, puis en masse. Le théâtre est subitement envahi des battements d'ailes, de cris. Ces oiseaux sont de 24 espèces différentes, tous avec des plumages différentes, avec à l'origine des chants différents. Thérèse la Huppe énumère les espèces. On peut voir même des ennemis habituels, comme l'épervier et la colombe, arriver ensemble. Tous ces oiseaux vont faire le cœur de la comédie.
J'ai tourterelle, alouette huppée, fauvette, oricou enguirlandé, colombe, vautour, épervier, pigeon, coucou, fou à pied rouge, tête rouge, poule sultane, crécelle, plongeon, pie grièche, orfraie, pie vert.
D'abord, ça se passe très mal. Les oiseaux sont furieux que l'un des leurs, Thérèse la Huppe, ait pactisé avec des humains qui sont les ennemis jurés des oiseaux. Il faut dire que ce n'est pas étonnant. Thérèse la Huppe était d'abord un homme et en plus un fourbe, un criminel. Il avait violé la sœur de sa femme. Les oiseaux qui viennent d'arriver se mettent d'accord pour mettre en pièces les deux Athéniens. Ils se préparent à les attaquer avec leur bec et leur serre. ça ira mieux demain, et les Delachatch se cachent derrière leur marmite. L'assaut va être donné, quand Terrell Ahup s'interpose. Il trouve l'argument décisif. Oui, c'est vrai, le monde est partagé entre amis et ennemis, et les hommes sont indubitablement les ennemis des oiseaux. Mais ces ennemis-là sont venus sans hostilité, il faut les écouter, car une société qui par définition est faite d'amis, c'est d'abord des ennemis qu'elle apprend ce qui lui est utile.
Mais c'est justement de leurs ennemis que les gens avisés apprennent le plus. La prévoyance peut tout sauver. Vois-tu, ce n'est pas de ses amis qu'on peut l'apprendre. C'est l'ennemi qui y contraint d'emblée. Par exemple, les cités. Ce sont les ennemis et non leurs amis qui leur ont appris à construire de hauts murs et à se doter de navires de guerre. C'est cet enseignement-là qui sauve enfants, maisons et biens.
Le cœur des oiseaux se calme. Terrell Ahup dit aux oiseaux tout ce qu'ils gagneront en accueillant les deux Athéniens et en suivant les conseils du plus avisé, des Delachatch, qui promet prospérité, pouvoir, bonheur, possession du monde pour tous les oiseaux. C'est incroyable. Les oiseaux n'ont jamais connu ça. Le cœur est d'abord sceptique.
Il est fou.
Censé à ne pouvoir le dire.
Il y a quelque chose de sage dans sa poitrine.
C'est le plus futé des renards. Il est sophisme, trouvaille, finesse, de part en part fleur de farine.
Ordonne-lui de parler, de parler. Quand je t'entends dire ce que tu dis, je me sens des ailes.
Dédé Latchatch va prendre la parole. Il demande qu'on lui apporte d'abord une couronne et de l'eau pour des libations sacrées. Ce sera plus solennel. Son camarade, ça ira mieux demain, pense qu'on va se mettre à manger. Mais Latchatch le détrompe. Il s'agit de dire n'importe quoi pour impressionner.
Non, par Zeus. Ça fait un temps que je cherche un argument bien gros et gras qui leur déchire l'âme.
Laborieusement, Dédé va essayer de leur prouver que les oiseaux étaient autrefois les rois du monde. Ces arguments ne sont pas très costauds, pas du tout même. Par exemple, on appelle le coq oiseau persan parce qu'il commandait autrefois au grand roi de Perse. La preuve qu'il était plus fort que les rois de Perse, les grands ennemis des Grecs, et que ces rois imitent les coqs. Ils marchent à grands pas, avec une crête sur la tête. Un de ces rois s'appelle d'ailleurs Megabazon, ce qui veut dire, si on traduit en grec, « qui fait des grandes enjambées, comme un coq ». Tout est donc affaire de langage. Ou le coq encore, quand il chante le matin, envoie tout le monde, hommes et dieux, au travail. Il suffit qu'il parle pour que tout le monde obéisse. C'est ce qui lui reste du pouvoir énorme dont il disposait à l'origine. Ces arguments sont complètement idiots. Mais ça marche. Les oiseaux sont convaincus et prêts à tout faire pour retrouver leur splendeur d'antan. Dédé Latchatch a gagné. Il est accueilli par les volatiles qui vont appliquer son programme et construire une ville dans le ciel. Ce programme est total, universel. Les oiseaux vont tous se rassembler dans une seule cité. Il n'y aura pas de guerre entre eux, comme entre Athènes et Sparte. Et les oiseaux vont dominer toutes les régions du monde. Dédé Latchatch est très précis.
Eh bien, voici mes instructions. D'abord, fonder une cité unique des oiseaux. Ensuite, ceinturer tout l'air, tout cet espace intermédiaire, en construisant des murailles en grosses briques cuites, comme à Babylone. Et ensuite, une fois ces murs montés, revendiquer le pouvoir auprès de Zeus. Et s'il dit non, s'il ne veut pas, s'il ne reconnaît pas aussi ses torts, déclarer la guerre sacrée contre lui et interdire aux dieux de traverser votre territoire en bandant, comme auparavant, quand ils descendaient suborner les Alcmènes, les Alopées et les Sémélées. Et s'ils viennent quand même, apposer les scellés sur leurs prépuces, afin qu'ils ne puissent plus forniquer avec elles. Quant aux hommes, je recommande de leur envoyer en héros un autre oiseau. Il proclamera que les oiseaux étant rois, les hommes devront désormais offrir leur sacrifice aux oiseaux, et ensuite seulement aux dieux.
Par exemple, s'il faut faire un sacrifice à Zeus roi, on fera d'abord une offrande rituelle au petit roi Telé, en sacrifiant pour lui un moucheron non châtré. Quant aux humains, ils ont tout intérêt à considérer les oiseaux comme leurs dieux. S'ils sont vénérés, les oiseaux chasseront les sauterelles qui mangent les récoltes, les insectes qui dévorent les figues. Ils indiqueront où se trouvent les minerais précieux. Ils annonceront le temps aux marins. Que du bénéfice. Les oiseaux sont prêts à appliquer avec enthousiasme ce programme. La ville des oiseaux sera construite. Le problème, c'est que Dédé Latchatch et son compagnon n'ont pas d'ailes. Comment pourraient-ils s'installer chez les oiseaux? Qu'à cela ne tienne. On leur trouve une drogue qui leur fait pousser des ailes. Dédé Latchatch, et ça ira mieux demain, seront donc, comme on dit en Californie, des hommes augmentés. Ils seront des cumulants, à la fois hommes et oiseaux. Tout est prêt pour le triomphe des oiseaux, et surtout pour la victoire de l'Athénien, qui a eu l'intelligence de vouloir devenir un volatile. S'il gagne, si la cité des oiseaux est construite et bien fortifiée sous ses ordres, le monde sera verrouillé. Les dieux seront soumis, la fluidité des échanges dans l'univers, l'immense souplesse des paroles légères et mobiles qui volent partout dans l'air, sera bridée, contrôlée par un pouvoir souverain.
Et qui êtes-vous, monsieur?
Victor Pivert, industriel à Paris.
Pivert?
Pivert, comment Pivert?
Je vous écoute.
La démagogie est un oiseau diurne qui pousse son cri sous les projecteurs et qui fait son nid dans le creux des urnes pour trouver sa voix chez les électeurs. Entre deux sondages, elle replie ses robes, son costume en or, ses promesses en l'air. Elle couve ses œufs, mais quand on les gobe, leur saveur bizarre vous reste en travers. La démagogie, c'est la clé des songes. Elle ouvre plus grand les portes du ciel. Avec des miracles et de pieux mensonges, elle met la pilule au milieu du miel. Tant pis si plus tard, après le spectacle, le décor s'effondre sur les acteurs. Et si le festin tourne à la débâcle, il y aura demain d'autres spectateurs. La démagogie, c'est plus médiatique. Ça traverse mieux le petit écran que les vérités beaucoup trop techniques et les statistiques où l'on perd son temps. C'est vrai que la vie serait bien plus terne sans quelques couleuvres et quelques vessies, qu'il nous reste à prendre pour des lanternes dans les accessoires de la panoplie. Sans démagogie, la démagogie c'est le grand remède, c'est de la pommade sur tous les mots, qui soigne l'image et qui vient en aide aux bonimenteurs en mal de micro. J'ai tordu le cou à cet oiseau lyre qui chantait beaucoup devant la maison. Je l'ai mis au clou, c'était un vampire dressé 100% pour les élections. La démagogie court après la gloire, elle vole au secours de sa propre vie, cherche à rattraper le cours de l'histoire et se prend les pieds dans tous les tapis. Mais elle se relève et revient plus fort, elle survit toujours à nos utopies. On s'est fait avoir une fois encore, mais c'est la dernière, après c'est fini. La démagogie.
Les dieux de l'Olympe ne vont pas se laisser faire. Ils vont résister, menacer, ruser. Ils vont tout faire pour ne pas perdre leur toute-puissance. Vont-ils y arriver? Sans doute pas. L'Athénien va les détrôner. Les oiseaux et les humains seront-ils plus libres? Sans doute pas. La suite de la pièce nous le dira.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Benjamin Wagon et le mixage par Romain Lenoir.